A lot can happen in the next 3 years. Like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. UnitedHealthcare Tri-Term Medical Plans are available for these changing times. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer budget-friendly, flexible coverage for people who are in between jobs or missed open enrollment. The plans last nearly 3 years in some states, with access to a nationwide network of doctors and hospitals. So for whatever tomorrow brings, UnitedHealthcare Tri-Term Medical Plans may be for you. Learn more at uh1.com.
Hold on, everybody. Here it comes!
Spotzle, le podcast du gravel et du bikepacking, épisode spécial lié au numéro 6 de Planète Gravel, ici Richard Delhomme. Aujourd'hui, je parle avec Eddy Jantet et cela va faire, parce que là c'est de l'impro une fois de plus, cela va faire la suite de l'épisode avec Jean-Yves Coupute sur son magnifique vélo en bois. Vous l'avez entendu, il parlait de Eddy, et bien nous avons Eddy sous vos yeux. Voilà, Eddy est ici, donc aujourd'hui nous allons parler de la conception d'un vélo en bois, donc les Gasta Boy, et ça a une signification particulière en occitan. Il me semble que ça veut dire gros tas de bois, mais ça, Eddy va le préciser, je suis pas totalement sûr de mon occitan. Mais ça a quelque chose à voir avec ça. Donc aujourd'hui, nous accueillons Eddy. Eh ben, Eddy, bienvenue et bonjour. Comment ça va ce matin?
Ça va très bien. Réveil matinal pour finir un vélo, mais...
Bon alors, Gasta Boy, ça veut dire quoi en occitan?
Gasta Boy, c'est gaspilleur de bois. Alors, dans tous les villages, quand il y avait un menuisier, et les autres menuisiers du village l'appelaient Gasta Boy, c'était un terme péjoratif pour s'allumer les uns les autres.
En quoi ça te parle? Qu'est-ce qui te fait rire dans le fait d'appeler ta marque Gasta Boy? C'est le côté récup un petit peu, ou tu vas prendre ce qu'il y a dans le tas de bois et faire un vélo avec?
C'est tout simplement, je travaille dans l'atelier de mon grand-père. Mon grand-père était menuisier évéliste dans le bled où je suis. Du coup, c'était son surnom. J'ai gardé le nom pour la marque naturellement, quoi.
Donc, je vous présente Eddy Jantet, grand bavard, absolument inarrêtable. Quand il commence à parler, rien ne peut l'arrêter. Hein, dans la grande tradition des Occitans et des gars du Sud... qu'il faut sans cesse interrompre pour essayer d'en placer une. Voilà, bravo, bienvenue Eddy. Bon, Eddy, tu es menuisier de grand-père en petit-fils apparemment. Si tu me parlais de la longue lignée des menuisiers chez les Jantet.
Ben, mon grand-père a monté l'atelier en 62. Donc, ils ont racheté la maison là où ils sont. Ils ont monté cet atelier-là. Ils ont travaillé jusqu'à 5 dans un tout petit atelier de 80 mètres carrés. Mais à l'époque où l'ébénisterie et la menuiserie avaient vraiment de la place dans les maisons de tous les jours, quoi. Mon père a travaillé avec, mon oncle aussi. Et aujourd'hui, moi, je travaille avec mon oncle dans l'atelier, on le partage. Lui est sur de la menuiserie traditionnelle. Et moi, je suis entièrement consacré au vélo et à la conception de ces cadres sur mesure.
Comment tu t'es dit, je vais arrêter de faire des tables et des chaises ou des buffets et je vais faire des vélos?
Moi, j'ai jamais commencé. J'ai fait mon diplôme dans un lycée des métiers d'art en ébénisterie. Mais je suis rentré après dans un domaine, jusqu'à mes 18 ans. Et après, je suis rentré dans un domaine viticole. Et j'ai travaillé en tant qu'ouvrier agricole pendant 6 ans. Mais en étant ouvrier agricole, je me suis dirigé vers le cyclisme, mais le sport. Et j'en ai fait en compétition amateur pour le plaisir. Mais ça rythmait quand même mes journées. C'était... 4 entraînements par semaine, et je suis tombé sur des vélos en bois sur internet. Toujours ayant cette fibre-là et cet amour du travail du bois, de l'artisanat d'art, de tout ça, je me suis dit pourquoi pas, ça fonctionne, on va essayer d'en faire un. J'en ai fait un, deux, et j'ai monté ma société comme ça, en n'ayant qu'un seul but, c'était de commercialiser vraiment et de créer ces vélos Gasta Boy, quoi.
D'où venait le premier vélo en bois que tu as vu? C'était vers chez toi ou ailleurs? C'est qui faisait ça?
Ah, je me suis renseigné, j'ai dit pourquoi pas vélo en bois. J'ai tapé vélo en bois, je suis tombé sur la marque Piccolo au Canada.
Ouais.
Aujourd'hui, c'est Silla. Je crois que c'est Silla aujourd'hui.
Ouais. Ouais. Ils sont super sympas d'ailleurs.
Ouais, bah, franchement, c'est eux qui m'ont donné envie de faire ce que je fais aujourd'hui, quoi. C'est parce que j'ai vu que ça fonctionnait. J'ai vu qu'il y avait une économie qui était possible, un vrai travail abouti derrière. J'ai dit, bon, pourquoi pas essayer de faire les miens avec ma patte et d'amener quelque chose qui me ressemble un peu et qui m'anime vraiment, quoi. Donc, ça a démarré comme ça.
Alors, ça veut dire quoi comparé à une autre marque de vélo en bois, donc Piccolo, anciennement Piccolo, maintenant Silla, basé à Montréal. Ça veut dire quoi quand on crée un vélo en bois, donc avec des fibres naturelles, avec des essences de bois, quelque chose qui te ressemble? Si tu étais un arbre, tu serais lequel?
Ça, franchement, je tombe amoureux de tous. Ils ont tous leur personnalité. Quand on parle du noyer, c'est vraiment la noblesse avec quelque chose de très feutré à rouler, léger, confortable, facile à travailler avec une possibilité de faire des formes. C'est fou à travailler, quoi. Et après, on a le chêne qui est vraiment ce côté brutal aussi, ce côté bien plus dynamique, bien plus donc. Vraiment, je m'attache à chacun. Chaque vélo que je fabrique, il passe 200 heures entre mes mains. Donc, que je le fasse en chêne, en noyer, en frêne, là, je suis en train d'essayer du Wenge, c'est un bois exotique. Ah, je m'y attache tous à chaque fois. C'est pas. Au début, j'ai toujours des a priori, puis ça finit toujours par être mon vélo préféré, quoi. Donc, c'est. En choisir un, c'est compliqué.
Ouais, t'es un garçon facile, toi, tu tombes facilement amoureux.
Ouais, c'est ça.
T'es un grand romantique en fait. T'es trop fleur bleue finalement.
Ouais, voilà, c'est. Ouais, carrément, mais c'est pour ça, du coup, je tombe amoureux de chaque
Tu
vélo.
utilises combien d'essence de bois finalement au total? Parce que là, tu m'as parlé du noyer, tu m'as parlé du
Bah,
chêne, bois africain dont je n'oserais pas écorcher la prononciation.
Ouais, j'utilise. J'ai débuté avec du frêne. Parce que c'est ce que j'avais vu sur les autres fabricants en me renseignant après. Puis un jour, on m'a dit, chêne, tu n'y arriveras pas, c'est trop lourd, trop cassant. C'est vrai que sur le papier et sur la théorie, ce n'était pas le bois destiné. Puis, par curiosité, j'ai essayé d'en faire un qui avait exactement les mêmes caractéristiques et les mêmes géométries que mon cadre qui était en frêne. Et je me suis rendu compte qu'il y avait un réel changement de comportement dans le vélo, quoi. Ah, je dis, bon, de là, il faut essayer un noyer. Donc, j'ai essayé un noyer, encore un comportement différent. Donc, aujourd'hui, c'est les trois essences que je maîtrise. J'arrive en associant certaines fibres avec certains bois, à orienter le comportement du vélo. Alors, pour faire simple, on va schématiser, c'est le noyer, c'est du titane. Le chêne, c'est du carbone. Et le frêne, ben, c'est un peu le plus polyvalent, donc il a les avantages de l'un, mais aussi c'est les inconvénients de l'autre. Donc bon, c'est la première approche. Ça reste un très très bon bois, mais c'est le plus polyvalent, quoi. Il aura moins de caractère et moins d'identité. Et là, je suis en train d'expérimenter un bois, le Wenge, justement. Alors, pour la prononciation, c'est un Wenge.
Wingé,
Et
d'accord.
c'est, ouais, il est sensiblement similaire au chêne en termes de poids, mais par contre, il va être un peu plus rigide. Et c'est un bois qui est aussi beaucoup plus foncé. Il est noir, noir-marron, donc en termes d'esthétisme, et c'est un bois semi-précieux. Donc, il y a aussi un intérêt à. Enfin, j'ai aussi un intérêt à aller chercher quelque chose qui attise ma curiosité comme ça, à savoir où je peux aller. J'en ai fait un pour de la déco et pour un événement. Où je vais exposer là, l'arbre blanc à Montpellier, c'est une galerie fait en acajou, donc en bois rouge, vernis avec des reflets. Enfin voilà, on essaye de faire des pièces différentes suivant les bois, mais aussi d'y trouver un intérêt technique pour pouvoir après le proposer à des cyclistes qui eux veulent un vélo qui répond à une attente.
Est-ce que tu mélanges les essences pour un vélo? Parce que là, tu m'as parlé de
Ah
la
non.
rigidité du chêne, de la polyvalence du frêne. si je me souviens bien. Est-ce qu'il est possible de mélanger, parce que c'est pas un monobloc, Jean-Yves m'a dit, c'est de la... Là, il va falloir que tu me le réexpliques.
Lamer les collets.
Voilà. Est-ce que tu mélanges pour justement modifier le comportement? Parce que tu as dit, pour schématiser, tel bois c'est le titane, un autre c'est le carbone, sauf qu'il y a différentes, évidemment, qualités de carbone et de titane. Donc est-ce que tu peux jouer sur l'épaisseur, les mélanges d'essence pour un tube, pour affiner un petit peu le comportement selon le résultat souhaité?
Alors, oui, ça c'est. Alors, enfin, au début, je disais non, parce qu'il y a déjà, les essences qui ont une propriété. Et en plus de ça, comme chaque géométrie que je crée est adaptée à la morphologie du client, on peut déjà jouer sur les sections, l'inclinaison des fibres de même bois pour ajuster le comportement du vélo. Rajouter encore une essence. Pour rentrer, ça serait continuer à mettre des micro-ingrédients dans la recette pour peaufiner un goût qui serait presque pas
Perceptible.
décelable. Ouais. Mais je vais donner un exemple. J'ai des gens qui adorent le noyer, mais qui font 1,90, 95 kilos. Et là, on va avoir un vélo qui va être trop confortable, c'est-à-dire qui va on aura tendance à, si la personne elle met vraiment les watts dans ce vélo-là, elle aura tendance à me dire peut-être il est un peu mou comparé à ses attentes. Mais par contre, ce qu'elle adore, c'est l'esthétique du noyer. Donc j'ai fait le premier là, qui est un mélange avec âme en chaîne pour ce côté rigide et le côté esthétique sur les lames finales en noyer qui apporte aussi un peu plus de confort avec le côté feutré de ce bois. Et du coup, voilà, c'est le premier là qui est sorti en bigou. Je l'appelle en bigou comme les carambars là, ou les malabars.
Tu insères des blagues avec?
Je sais pas.
Et ça se...
Franchement, c'est. Ouais.
Ah, vas-y, je te laisse continuer. Vas-y, vas-y.
Non, ça fait. Je travaille, j'ai mon frère qui bosse avec moi. Et alors, moi, c'est pas le côté esthétique que je préfère le plus. Ce mélange des deux bois parce que on va voir le travail et les assemblages. Alors lui, c'est ce qu'il aime. Moi, je préfère quand on a l'impression que c'est fait de monobloc et qu'on laisse juste les lignes tracées à la main, créer les arêtes, tout ça, plutôt que de voir le travail d'assemblage intérieur. Mais ça, c'est une question de goût et de couleur, quoi.
Tu m'as dit, tu passes pas mal de temps sur un vélo. Donc, la réalisation d'un vélo, c'est combien d'heures? Tu l'as mentionné, mais est-ce que tu peux détailler un petit peu?
Ouais, c'est environ 200 heures de travail dans un premier. On part d'une planche brute, donc il faut déjà sélectionner les fibres suivant l'attente du client. Et quand je dis 200 heures, c'est quasiment 200 heures à l'atelier avec l'assemblage, le collage, tout est fait à la main. Je compte pas les heures où je vais passer à rechercher les pièces, à parler avec le client, à venir essayer le jour de la livraison. Je compte moi pour un vélo, j'arrive à sortir, ça fait 2 ans, là j'ai le carnet qui est plein jusqu'à la fin de l'année, je vais sortir 12 vélos, donc ça fait 2 ans que je fais 12 vélos par an. J'aimerais accélérer le rythme après un peu, mais on ne sera jamais sur 200 vélos ou même 100 vélos, ce sera compliqué quoi.
Quand tu dis accélérer, ça signifie passer de 12 à combien?
Ouais, je pense que doubler ce serait compliqué. Mais ça serait de passer à une vingtaine de vélos, ça serait pas mal. Ça serait pas mal parce que ce que les clients recherchent quand ils viennent aussi à l'atelier, c'est d'avoir un souhait, une idée et une intention sur le vélo. Et derrière, on leur fait une proposition. On est à l'écoute, il y a l'authenticité de cet atelier, de tout ça. Si demain on venait en faire 100, 200, peut-être que ça perdrait ce côté-là, et moi, c'est vraiment ce qui m'anime, quoi. C'est d'avoir un projet, un par mois, vraiment travailler avec le client et de nouer des liens, quoi. Donc, c'est comme ça que je veux les concevoir, et je pense que c'est incompatible avec 300 ou 400 vélos, quoi.
Tu fais un vélo par mois. Qu'est-ce que tu ressens quand tu te sépares de ce vélo?
Ah, c'est alors le gros de la sensation, il est au moment du montage en général, parce qu'on a le travail fini et là on se rend compte de des idées qu'on a eues dans la tête qui sont passées, qui les projections, ça se concrétise. Mais à la livraison, quand je m'en sépare, y a pas une grosse émotion où il y a pas. Mais par contre, il y a 2 semaines en arrière, on a fait revenir 10 clients. Et on a dormi, j'ai loué un gîte, on a dormi dans un gîte tous ensemble, et on a fait 2 jours de vélo en partage. Et c'est de les entendre parler entre eux dans les conversations off où je suis pas censé être au milieu. Et c'est là où on se rend compte de tout le travail qu'on a fait pendant un mois à écouter ces personnes-là, à les entendre. Tout ça, ils ont un cadre, ils en achètent un second. Ils sont en pourparlers pour. Ça fait partie d'une communauté, quoi. On est en train d'essayer de créer ça. Et je crois que c'est ce jour-là que vraiment j'ai eu une satisfaction à me dire bon, l'idée à la con que tu as eue il y a 5 ans, je crois qu'elle est en train de se réaliser, quoi. Donc, ouais, c'est compliqué. Ça fait pas mal de choses, mais c'est ce jour-là, je crois que j'ai pris conscience que c'était cool ce que j'étais en train de faire.
Alors, il y avait un autre mec qui appelait son entreprise une idée à la con. Phil Knight, le fondateur de Nike.
Ah ouais?
Au début, il disait que c'était une idée à la con. C'est
Ouais,
bien. Ça va, ça fonctionne. Ça
c'est pas mal.
a l'air de fonctionner, ouais.
C'est pas mal.
Ouais. Comment tu pars pour la conception d'un vélo, comment tu procèdes? Donc, tu as le choix de l'essence, l'orientation des fibres, mais sur la conception vraiment mécanique. Enfin, pas mécanique, mais plutôt biomécanique du vélo, que ce soit la prise de côte, les mesures du cycliste et également la géométrie du vélo, comment tu procèdes en fonction du
Je me suis
comportement
inspiré
souhaité?
de deux. Ouais, je me suis inspiré de deux vélos que j'affectionnais, sur lesquels j'ai roulé. Un de chez SP et un de chez Colnago. Et j'ai regardé un peu les similitudes sur les géométries, les anthrax, tout ça. Et j'ai pondu, entre guillemets, mais c'est un bien grand mot. Le vélo existe déjà depuis longtemps, donc j'ai rien inventé. Mais j'ai élaboré une géométrie avec un gabarit dans chaque taille. Et de là, quand le cycliste vient, je lui demande 3 côtes qui sont sur son vélo actuel. Parce qu'en général, un client qui vient chez moi, c'est un passionné de vélo, il a déjà un
Oui.
vélo, il pratique. Et j'ai pas intérêt à le changer de position parce qu'il va. S'il arrive à faire 4 heures de vélo sur son vélo, en général, c'est qu'il est bien posé. Et arrivé à un certain âge, si on change les positions, tout ça, on dit qu'on va faire du sur-mesure, mais je vais me retrouver avec un vélo qui va lui créer des douleurs et qui va pas être. Donc, je prends ses côtes. Après, s'il veut une étude posturale, je travaille avec quelqu'un qui peut faire des études posturales. Mais je prends 3 côtes, axe de selle, tube, axe de selle, boîtier de pédalier, bec de selle, axe de cintre, axe de cintre, axe de roue. Et ça donne, en général, une espèce de. Ça fait 3 côtes avec les jambes, le buste et les bras du cycliste, en fait. Et du coup, quand il a le vélo, il se retrouve avec exactement la même position que sur son ancien vélo, mais sur ma géométrie. Et en général, il n'y a pas de temps d'adaptation. Et le cycliste peut directement apprécier le comportement du vélo et profiter, voilà, de ça, des fibres, de ce qu'il y a de différent dans ce matériau-là.
Si on reparle plus spécifiquement du vélo de Jean-Yves, tu lui as autorisé un passage de pneus de combien? Parce que là, c'est sur un vélo de route, bah, je comprends bien le côté je transpose les géométries. Mais pour un gravel, là, tu as autorisé, je crois qu'il t'a demandé 47-48 en maximum.
Ouais.
Comment tu fais
47-48.
comment t'as fait pour faire passer 47-48, sachant que aujourd'hui, bien des fabricants entre guillemets génériques ou en tout cas des marques vraiment installées soutiennent que c'est compliqué de faire passer plus que 45-47. Alors que bon, on a aussi beaucoup d'exemples de marques qui passent du 50, 53, 57, mais avec des supercheries de design. Toi, avec le bois, comment tu fais pour passer 47, 47-48?
L'artisanat, c'est la force de l'artisanat, c'est de s'adapter à une demande et de travailler avec les mains sur le produit directement. Donc, j'ai établi la longueur des bases, je ne me souviens plus, mais je crois qu'elle n'est pas bien longue. On a un 41,7, je crois, ou 42.
Ah, c'est
Et
court.
j'ai rajouté du bois. Ouais. J'ai rajouté du bois côté opposé pédalier et pour avoir une base assez large pour garder cette rigidité dans le vélo. Et j'en ai supprimé un peu côté pédalier. Et il fallait un pédalier avec une ligne de chaîne assez large aussi. Mais on se retrouve quand même avec une base en bas qui fait 16 ou 18 mm d'épaisseur. Donc ça combiné à une géométrie courte, on garde quand même une rigidité dans le bas du cadre qui est intéressante. Et alors sur la théorie, on était ouais, sur un 48. Moi, au pied à coulisse, j'avais 53. Et on s'est rendu compte que quand on monte un peu nœud, il faut dessus un 45, c'est bien quoi. Au-dessus, s'il y a un peu de boue, un peu de passage comme ça, c'est compliqué. Mais il a un pneu en 44 dessus qui fonctionne bien, je crois.
Donc, tu as finalement au niveau du boîtier de pédalier et du départ des bases, un design assez un petit peu asymétrique parce que tu n'as pas les mêmes épaisseurs à gauche et à droite. C'est un petit peu asymétrique.
Ouais.
Ouais. Est-ce
Oui, oui, oui,
qu'avec du
oui.
bois, il serait possible de reproduire vraiment la forme asymétrique des open ou de la plupart des vélos maintenant avec vraiment une asymétrie au niveau du boîtier de pédalier du départ des bases. Donc avec vraiment une courbure qui autorise un passage de pneus plus large.
Commande-moi un vélo et je le fais. Sur le
Alors
prototype de Jean-Yves,
je cherche
il y
ma
avait
carte.
une.
Je sais pas, c'est quand même dingue parce que étonnamment, je ne sais pas où je l'ai foutu ce matin. Donc je suis vraiment désolé, mais
Bah ça.
je vais devoir ajourner le projet.
Ça arrive, ça arrive. Non, je sais pas, j'ai pas essayé. Sur le prototype de Jean-Yves, on était parti sur un concept là où il fallait enlever quelque chose. On a réussi à l'enlever et ça fonctionne toujours. Je pense que s'il fallait faire ce principe-là, avec un peu de recherche et quelques prototypages, on arriverait à faire quelque chose aussi, quoi.
Ouais.
Donc, je m'y suis jamais penché, j'ai jamais regardé exactement l'intérêt de ces décrochages. Je me suis pas, voilà, j'arrive à passer des pneus en 44, en 45, ce qui me pense être déjà pas mal sur un gravel. Moi, je me suis fait un VTT en termes de prototype aussi, où j'ai un pneu qui fait 53 à l'arrière. Donc,
Ouais, donc tu
mais
sais
voilà, il y a un
faire.
boîtier pédalier plus large. Ouais, c'est pas le problème, quoi. Je pense qu'il y a pas de, aujourd'hui, il y a pas tant de limites à la fabrication. Par contre, il y aurait une limite à l'industrialisation,
Oui.
parce que dans les un premier temps, il faudrait faire un prototype, l'essayer, le développer. Donc voilà, ce serait.
Combien,
Mais ça peut se faire.
parce que là tu m'as tendu une perche énorme, donc maintenant on va parler un petit peu d'argent. Combien coûte un vélo? Enfin, en tout cas, ça coûte combien, tout simplement?
Suis sur des kits cadres aujourd'hui, cadre fourche tige de selle. Qui sont à 5 000, 5 500 le kit complet. Et après, suivant options et plus-value, détails, voilà, ça peut faire monter le chiffre. Mais voilà, je veux que quelqu'un qui a un beau budget pour un vélo de série de marque, de grande marque de distribution, puisse à un moment donné se tourner vers un cadre artisanal avec quelque chose de différent. Alors après, moi, je serais toujours adepte de projets avec budget illimité, parce que c'est là où je pourrais m'exprimer dans ce côté artistique et création. Mais voilà, les entrées de gamme, enfin, les prix sont de 5 500, 5 000, 5 500, un kit cadre sans le guidon, parce que le guidon, toujours, il y a des gens qui veulent. J'ai des clients qui veulent des guidons en alu, d'autres qui veulent des monoblocs, des tout ça. Donc ça fait vachement varier le prix du kit cadre, sachant que la fourche et le tube de selle, c'est toujours moi qui les fournis.
Alors j'en vois déjà se dire, putain, le mec, il fait 12 vélos par an, un vélo par mois à 5 500. L'enfoiré, il se fait 5 fois le SMIC. Bon, à la fin du mois, quand tu as vendu ton vélo, que tu as enlevé charges, impôts diverses, globalement, il reste combien sur la vente d'un vélo? Histoire de démystifier cette idée que Eddy Jeantet roule sur l'or et va bientôt s'acheter une Tesla.
je me verse pas de salaire encore. Voilà, je suis dans le développement de la société et je travaille de ma passion. Donc, ok, bon, pour l'instant, on verra après. Ça me remplit le frigo, mais voilà, j'ai fait un investissement dans le showroom à l'étage de mon atelier, 80 mètres carrés de showroom. Donc, l'argent il reste dans la société. C'est pas moi qui. Moi, je vis de ma passion, je bosse, j'aimerais qu'à terme, mais il reste pas grand-chose, quoi, parce qu'une fois qu'on a enlevé la TVA, tout ça, 200 heures de travail, si on le rapporte au taux horaire, je travaille même pas à 20 euros de l'heure. Un ébéniste traditionnel, c'est 45 euros de l'heure pour faire un meuble, quoi. Demandez à un ébéniste qui vous fabrique l'intérieur de votre maison sur lequel il va bosser un mois, je pense que la facture, elle sera pas de 5 500, quoi. Donc, voilà, tout est relatif. Il faut rester sur un prix qui reste ceux du vélo pour que les gens qui sont amateurs de vélo puissent venir dans ma philosophie. Mais après, il y a aussi cette envie que j'ai, c'est de créer un vélo. J'aurais plus adepte de créer un vélo à 100 000 euros par mois, par an, que 10 vélos à 10 000. Donc, mais voilà, c'est dans les projets, c'est dans les choses comme ça. Ça peut se faire, ça va se faire, je l'espère. Donc, c'est comme ça que je veux voir la société, quoi. C'est pour ça que c'est Airformance aussi, Gastaboy Airformance. C'est de l'art et de la performance. Et je souhaite vraiment le mettre en place, ces vélos, avec une touche d'art, quoi, dedans.
Ben voilà, je crois qu'on a fait le tour, Eddy. Est-ce que tu as quelque chose à ajouter? Est-ce que j'aurais oublié de parler de quelque chose? Ou est-ce qu'il y a quelque chose que tu aimerais vraiment dire? Est-ce qu'il y a un sujet qui touche tes vélos que tu aimerais aborder? Quelque chose auquel je n'aurais pas pensé?
Moi, je pense que globalement, on a fait le tour. Après, ouais, je pense qu'on a fait le tour. Le côté technique, le côté. Chaque vélo est une pièce unique, quoi. Ils sont tous numérotés. Donc, chaque client se l'approprie du moment où il passe commande. Et là, j'ai des commandes qui sont passées pour décembre. On a déterminé un budget, un devis. Mais j'ai dit ok, on valide avec un acompte, mais jusqu'à le début de la fabrication, on le fait évoluer, quoi. Moi, je vais peut-être évoluer sur les 6 prochains mois en termes de fabrication. Le client aura peut-être des nouvelles idées, tout ça. Donc, c'est vraiment, on a une intention à la base. On est séduit par la démarche de ces vélos différents en bois qui sont conçus sur mesure. Donc, on fait évoluer ça et jusqu'au moment du début de la fabrication, on peut personnaliser et on se laisse à échanger pour justement faire ça, quoi. Un vélo unique à chaque personne.
Question subsidiaire, Jean-Yves casse son vélo ou prend une grosse chute. Comment se passe la réparation d'un Gastaboy? Est-ce que c'est réparable? Est-ce que c'est réparable?
Ouais, y a des endroits qui sont creux, mais il y a des endroits qui sont pleins. Les endroits où il y a les chocs, notamment les bases et les haubans, sont des pièces pleines. Donc, déjà pour le casser, il faudrait vraiment avoir un gros choc latéral ou quelque chose comme ça. Mais comme c'est grossièrement un pulse de 40 à 50 pièces, le vélo, si vraiment il y avait quelque chose à réparer, c'est faisable. Après, tout dépend l'endroit, tout dépend la gravité. Est-ce que pour réparer, j'aurais pas plus de temps qu'à fabriquer? Bon, voilà, c'est. Mais j'ai deux clients qui ont eu des. J'ai un client qui a eu un accident de voiture et un client qui est tombé en vélo. On a changé la fourche, on a changé le guidon qui était en carbone et le cadre est toujours là, quoi. Donc, je suis pas tant sceptique sur sur ce côté fragile qu'on pourrait avoir et dans les idées. Les baguettes de tambour, les manches de marteau, tout ça c'est fait en bois et avant de le casser, faut y aller quoi. Donc il y a pas, ouais voilà. Ouais.
Ça se casse hein, quand même. Hein. Franchement, ça se casse bien. Hein. C'est pas
Ouais.
Quand tu,
Ouais.
ce, selon le genre musical que tu vas employer, selon le type de baguette, un abus de rimshot et ça y est, c'est fini, il n'y a plus de baguette. Hein, donc,
Ouais, mais parce qu'il y a du contact avec le métal,
Ah bah oui.
faut
Ah
le
bah
taper.
oui.
C'est parce
Oui,
qu'il faut pas ta faut taper sur la peau aussi, faut pas taper
Ah bah ça dépend. C'est comme
le
tout.
cerclage.
C'est comme tout. Si tu ça, le, taper sur le cerclage, donc un rimshot. Ça donne aussi ce son est hyper métallique, hyper agréable. Donc sur certains trucs, le rimshot est absolument indispensable. Mais c'est vrai que si tu joues que comme ça, c'est pas terrible quand même. Hein.
Ouais.
Qu'est-ce que ça te fait? Et je conclurai là-dessus, à moins que j'aie d'autres idées, d'autres questions qui me viennent par hasard. Qu'est-ce que ça te fait, la perspective? Que Jean-Yves, le jour où il va décéder, qu'il se fasse incinérer avec son vélo. Tu savais ça?
Ouais.
Le mec est
Ouais.
bizarre, hein. De toute façon, moi je l'ai toujours trouvé hyper bizarre comme mec. Donc
Ouais, mais moi j'ai toujours adoré les gens qui sont bizarres parce que c'est vraiment une personnalité avec une passion et quelque chose qui l'anime et qui va pousser jusqu'au bout. Alors, outre le fait du vélo et que ce soit le mien et tout ça, c'est plus la philosophie qui me. C'est-à-dire que c'est la passion qui aura animé sa vie. Et ça va, celle qui va animer sa mort. Donc voilà, il y aura. C'est philosophique, c'est imagé, c'est tout ça. Mais je suis content de pouvoir lui proposer ça. Si mon cadre va lui proposer ça, de pouvoir se faire incinérer avec, ah, il n'aurait pas pu le faire avec un autre. Donc c'est un honneur, quoi.
Ah bah c'est sûr qu'avec un vélo en acier, ça aurait pris beaucoup plus de temps et il aurait fallu un bien plus gros barbecue, ça c'est certain. Ça c'est une certitude. Mon petit Eddy, je vais te laisser pour ta minute de solitude. Donc merci, de toute façon je te reprends après. Je coupe la caméra et le micro. Quand tu as terminé, je reviens en ligne. D'accord? À tout de suite. Tu dis ce que tu veux, tu as 1 minute, 2 minutes. Tu t'exprimes, c'est un espace d'expression pour un artiste tel que toi. Ok? À tout de suite.
Gasta Boy, c'était il y a 5 ou 6 ans. Une idée, une envie de vouloir créer ces vélos d'art, d'amener l'art dans le monde du vélo et le vélo dans le monde de l'art. Incruster des pierres précieuses, mettre de la feuille d'or, travailler avec des matériaux nobles, de l'ébénisterie traditionnelle, savoir-faire artisanal avec les mains, le travail de la passion sur ce matériau-là, j'en parlais avec mes proches et de dire si c'était possible, c'était possible. On s'est lancé, enfin, je me suis lancé. Maintenant, il y a mon frère qui bosse avec moi. Ça anime la famille, ça réanime l'atelier familial. On a des gens qui partagent ça avec nous, des clients, on dit des clients, mais c'est pas vraiment des clients. On est aujourd'hui sur l'expérience Gastaboy et c'est ce qu'on veut continuer à développer avec des événements, des petits stages, des immersions, on va faire découvrir notre région, notre savoir-faire, notre façon de voir le vélo, notre philosophie autour de ce projet. Donc voilà, ça s'anime aujourd'hui. Et ça s'anime et ça nous anime. Donc voilà, merci de nous avoir écoutés et de potentiellement partager ça avec nous. C'est une aventure qu'on veut créer pour durer. Donc merci à tous.